dans le Kera, avant, on va dire, les années 50, je dirais pas qu'on était au Moyen-Âge, mais pas loin. On avait des systèmes de fonctionnement, on vivait en autarcie, avec une agriculture vivrière. Chaque famille avait une ferme avec une dizaine de vaches, une quarantaine de moutons, deux cochons, des poules, des... voilà. Et chacun vivait comme ça.
Galerie ambulante, une émission de Pierrick Mouton et Stéphane Guiglemé. Épisode 4.
Penser autrement, c'est bien. Autrefois, oui, c'était très social, c'était très sociable. Je ne sais pas quel avocat vous utilisez, mais il y avait une vie communautaire. Aujourd'hui, la vie sociale dans les villages, c'est plus du tout la même que celle qu'il y avait il y a 50 ans. Elle était obligatoire, cette vie sociale, avant. Elle était nécessaire à la survie. On s'échangeait, on partageait les compétences. Si la maison du voisin brûlait, c'est tous les gens du village qui se mettaient à l'aider à reconstruire. Il y avait une solidarité qui était très forte, qui était obligatoire aussi. Bah, si on monte autant précieux, c'était ça aussi. Hein. Dès que le clan, entre guillemets, atteignait 30, 40, 50, 100 ou 200 personnes, eh ben, il y avait un partage des tâches. Il y en a qui savaient faire le feu, il y en a qui savaient tailler les pierres, il y en a qui savaient chasser, et ça profitait à tout le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou que ça. Aujourd'hui, quand on est en panne, on va chez le garagiste. On va se couper chez le coiffeur, on va chez le coiffeur. On a une panne de chauffe-eau, on appelle le plombier. Je me souviens d'un ancien qui disait « Avant, on fauchait pas son foin avant d'avoir fauché le foin de la veuve. » Qui, elle, pouvait plus faucher, bah, on lui fauchait son foin avant. Il disait « Aujourd'hui, on fait plus ça. Aujourd'hui, il y a les assurances. »
La belette est solitaire. Le requin est solitaire. Le vautour est solitaire. Le rat est solitaire. La mouche à merde est solitaire. Le morpion est solitaire. Le roquet se rend compte des histoires. L'orque se rend compte des histoires. Fin du poème. L'homme est solitaire.
Tout le monde peut apporter à tout le monde. Et si on apporte moins, bah c'est pas grave. On apporte moins parce que c'est comme ça, parce que la vie a fait que on a moins de compétences. C'est pas une tare. Si on peut apporter plus, bah tant mieux. C'est gratifiant d'apporter beaucoup. Et autrefois, il y avait toujours celui qui était le simple du village. Bon, on lui trouvait toujours un boulot. C'était le cantonnier, c'était etc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, quoi.
Salut. Vous ne me reconnaissez pas?
Il me semble.
Faites un effort.
N'êtes-vous pas le personnage bizarre qui m'est apparu dans ma jeunesse?
Vous y êtes.
J'avais 13 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Vous m'aviez fait une peur épouvantable.
Je m'appelle Michel Chavreau. J'ai été directeur de l'école de SIAC pendant 23 ans. Et à SIAC, on a eu le plaisir de recevoir chaque année quasiment Stéphane de la Galerie Ambulante, qui passait généralement au printemps, nous présentait un artiste contemporain avec des œuvres qui interpellaient souvent. Et c'était un peu le but, c'était d'interpeller les enfants sur des types d'œuvres qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. L'intérêt, c'était de nous apporter une ouverture et de provoquer un regard sur le différent, sur une manière d'aborder l'art, une manière différente à travers ces œuvres qui étaient des fois même presque dérangeantes pour les gamins ou même pour les adultes. Hein. C'est toute la problématique, entre guillemets, de l'art contemporain. Ça interpelle. Et si on obtient une réaction, on pense autrement. Et penser autrement, c'est bien.
Qu'est-ce qu'il y a, dans les grandes écoles, c'est plus strict, mais aussi, dans les grandes écoles, on peut pas... Enfin, il y a des choses qu'on peut pas faire, et puis si on est en difficulté, on a plus de mal à rattraper, alors que là, dans cette école, bah, y a peu de gens qui sont en difficulté, parce que s'ils sont en difficulté, on a le temps de s'occuper d'eux, et on peut s'occuper chaque... Enfin, si on a fini, maîtresse, elle peut nous donner un travail... qu'on n'était pas censé faire et tout ça. Alors que dans une grande école, ils ne pourraient pas faire ça parce qu'il y aurait trop de gens.
On travaille de façon fédératrice. On est ensemble pour un projet. On fait une pédagogie de projet, finalement. Et on travaille beaucoup aussi sur l'aspect transversal. L'art, c'est toujours une occasion de faire un travail transversal en français, en oral, en savoir-être... en savoir-faire, enfin, tous les compartiments de la pédagogie sont abordés à travers l'art. C'est un très bon support pour l'apprentissage dans tous les sens du terme, dans tous les volets de l'apprentissage. Pas que scolaire. Et surtout un bon état d'esprit.
C'est important pour vous, l'état d'esprit ?
Ah, ça conditionne tout. Si le gamin, il vient à l'école avec l'envie de venir, l'envie d'apprendre, mais d'apprendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de partager. De partager, d'aider, de soutenir, de recueillir, de quand on est un autre gamin, de parrainer, etc. C'est-à-dire qu'il va acquérir des compétences, mais il va faire partager ses compétences. C'est génial, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... si je prends la caricature de la pédagogie qui doit encore exister dans certaines classes aujourd'hui, on dit aux gamins, bon allez, aujourd'hui passez simple, vous prenez votre bled, exercice 372 à 392, page 24. Ça c'est... Non, ça n'existe pas. Si je prends un projet qu'on a fait l'année dernière, on travaille beaucoup, on est ouvert. Le parc avait un projet de cabane pastorale... dans la vallée du Bois Noir, on a fait un travail avec le parc. Donc on s'est emparé du projet. Les gamins, je leur ai expliqué qu'il fallait construire une cabane pastorale. Pourquoi il fallait construire une cabane pastorale ? Je leur ai dit, écoutez, c'est à vous de la faire, quoi. Donc il nous faut un projet bien ficelé, qui tienne la route et tout. Donc j'aurais donné le cahier des charges. Il faut un truc qui soit ficelé, qui soit bien présenté. Trouvez-moi un logiciel... de construction par ordinateur, qui soit gratuit. Les plus grands, prenez-le en main. Une fois que vous l'avez en main, transmettez aux plus jeunes, les CE2 et les CE1 en l'occurrence, pour qu'ils puissent l'appréhender aussi. On fait une restitution en groupe, on choisit un projet pour toute la classe, on se met d'accord. Et après, on rencontre le berger, on présente le projet. Est-ce que ça colle avec le cahier des charges ? Ah non, il manque ceci. Ça, c'est bien. On corrige le projet. Après, on voit la commune. Quelle est l'enveloppe budgétaire ? On va calculer le coût. On a calculé le coût. C'est trop cher. Donc, on va oublier le parquet en chevron, en chaîne. On va mettre une mêlée, c'est plus simple. Ah bah zut, il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, c'est la TVA. C'est quoi la TVA ? Enfin, et tout ça, on a fait des maths, on a fait du français, on a fait l'informatique, on a vu des gens extérieurs, on s'est ouvert, etc., etc. quoi. C'est génial, ça.
L'intelligence ne saurait être séparée de la vie et du travail, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Le travail doit donc être intégré à la vie. Il doit y avoir, à la base de tout métier, de toute fonction, une préparation fondamentale, autant que possible polyvalente, c'est-à-dire qu'il faudra que l'école s'applique à préparer dans l'individu toutes les possibilités de chacun, tout ce qui est affectif, ce qui est sensible, ce qui ne se mesure pas. La formation de l'affectivité est une partie importante de notre pédagogie, que nous ne devons pas penser que l'individu n'est que connaissance, n'est que leçon, n'est que devoir, n'est que tâche, mais qu'il est aussi et surtout une personne sensible et que cette sensibilité a toujours une très grande résonance pour son propre comportement et pour le comportement de la masse, de la société dans laquelle cet individu travaille.
Ce qui manque, c'est un peu cet aspect-là, quoi, c'est qu'on est encore trop dans le scolaire. Mais trop dans le scolaire, je ne vais pas jeter la pierre à l'institut qui est en ZEP, qui a 30 gamins. trop dans le scolaire. Enfin, moi, j'ai les souvenirs de ZEP. On est confronté à des situations sociales, des fois, qui sont tellement difficiles que le gamin, il n'est pas disponible pour un apprentissage de type classique, quoi. On est juste passé par d'autres biais. Et quand on a 30 dans la classe et qu'il y en a la moitié, ça a été mon cas, hein, la moitié qui sont suivis pour des raisons ou d'autres, bah, c'est difficile, quoi. Quand j'étais en région parisienne, un gamin, c'était le 9e enfant d'une fratrie, 9 pères différents, tous issus du grand banditisme. Les 8 premiers retirés définitivement par le juge à la mère. Et implicitement, la mère, à un moment de sa vie, quand elle avait ce 9e gamin que j'avais en classe, elle a culpabilisé, vraiment culpabilisé, parce qu'on avait retiré ses 8 premiers gamins, qui n'avaient pas de père. Le père était sur une chaise roulante, il avait reçu une balle dans le dos. Et elle a implicitement demandé à son fils, qui avait 10 ans, de la punir et donc de la tuer. Et donc le gamin, de façon complètement inconsciente, quoi, il a essayé de la tuer, il a essayé de la défenestrer, enfin, etc., quoi. Bah, quand t'as un gamin comme ça, oui, il a essayé de tuer sa mère. Est-ce qu'il est responsable? Et un gamin comme ça, que t'as en classe, qu'est-ce que tu veux lui parler de passé simple, et faire du scolaire, quoi. Il n'est pas disponible. Voilà, c'est les cas. Bon, c'est un cas un peu exceptionnel, mais voilà. Bon, bah, des gamins comme ça, c'est la vraie. Je dirais après, c'est la vraie vie, mais. Voilà. On n'est pas chez les bisounours, quoi.
Nous sommes des instituteurs. Et à l'origine, vous savez, nous n'avons pas fait d'études spéciales pour vous dire comment il faudrait orienter les enfants. Seulement, nous avons fait notre travail d'instituteur. Les instituteurs sont un corps, en général, de choix. De choix parce qu'ils travaillent une matière de choix et que vraiment, il faudrait n'avoir aucun cœur pour se désintéresser du travail qu'on fait.
Le profil des gens qui sont assis aujourd'hui, c'est pas le même qu'avant. Or, si je caricaturais, hein, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des gens qui faisaient le choix d'être instit par, entre guillemets, vocation. Aujourd'hui, on cherche un débouché, on passe au concours, c'est bon, je l'ai, j'ai un boulot, quoi. Ils arrivent le matin, ils font leur taf, ils repartent le soir. Et ils connaissent pas les gens. Être instit, finalement, c'est pas que enseigner des matières, etc. C'est établir des relations avec la commune, avec les parents, avec les gens du coin. Voilà, c'est tisser des réseaux.
Long poème, court à terminer chez soi, de Robert Filloux. Je possède une idée. Mon idée me possède. Je possède un chat noir. Mon chat noir me possède. Fin du poème. On est possédé par ce qu'on possède.
Il n'y a pas d'estrade ici. L'estrade, ça, par certains côtés, elle avait ce côté château. Hein. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. J'ai déjà entendu ça de la part de collègues. Hein. On est au-dessus des gamins. Non. Je ne dirais pas qu'on est à l'égal. On fait pas copain-copain, mais... Si je faisais un reproche un peu fort à un gamin, ça m'est arrivé. Hein. Ben, un gamin pouvait me dire « Michel, là, t'étais un peu fort avec lui, pas très gentil, il fallait peut-être lui dire plus gentiment, etc. » Moi, je trouve ça super que le gamin il puisse parler ouvertement comme ça. Il faut reconnaître la personnalité, l'identité des enfants. On ne dit pas ici, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas comprendre, tu comprendras plus tard. Non, non, l'enfant a une identité, il a une personnalité, il a le droit de comprendre, il a le droit d'avoir une opinion, il a surtout le droit de critique. Et s'il y a une chose qu'on doit apprendre à l'école, c'est le sens critique.
Ils ont tous leurs problèmes, leurs questions. On a peine à imaginer quels sont leurs intérêts. La vie actuelle les entraîne, ils sont plus réceptifs que leurs aînés. Le grand déferlement de l'information, les journaux, les revues, la télévision les touche en plein. Il n'y a plus grand-chose qu'on puisse leur cacher. Ils vivent en direct la grande aventure de l'espace. La télévision leur apprend à penser à l'échelle de la planète. Ils connaissent l'unité du monde, la grandeur et la faiblesse des hommes, leurs problèmes et leurs déchirements.
Mais il faut vraiment tout faire pour développer l'esprit critique des enfants, leur apprendre à faire le tri des informations, à ne pas avoir de raisonnement manichéen en disant c'est bien, c'est mal, c'est pas si simple. On avait fait une fois un travail sur le loup comme ça qui était vraiment intéressant, parce que c'est un débat polémique le loup. Hein. Alors, y a les pour, il y a les contre, et c'est souvent très tranché, quoi. Et on avait invité un éleveur et un pro-loup assez marqué, quoi. Et au final, on est arrivé à une conclusion ensemble avec les gamins, et j'étais très content de ça, c'est que le problème n'est pas simple. Donc c'est pas tout bien, tout mal, c'est pas simple. Il y a des bons arguments chez les éleveurs, il y a des bons arguments chez les écologistes naturalistes, et il faut essayer de lier tout ça et de trouver une solution qui satisfasse tout le monde.
On ne peut plus l'ignorer, leur univers aujourd'hui, c'est ce fourmillement de questions. On dit que trop de choses les tiraillent en tous sens. C'est vrai sans doute, mais l'énergie même de leur curiosité, ne peut-on la capter, l'utiliser? De qui peuvent-ils espérer les réponses, sinon de leurs parents et surtout de l'école? Et l'école va-t-elle les séparer de la vie? Ou peut-elle s'organiser pour utiliser leur soif naturelle d'apprendre, leur capacité d'enthousiasme?
Le meilleur moyen de lutter, que ce soit contre le changement climatique, contre le populisme, etc., c'est l'éducation. Il faut mettre le point sur l'éducation. C'est l'arme numéro un pour lutter contre les intégrismes, contre les forces de l'argent, contre les lobbies, contre le poids des médias, contre etc., quoi. Et ça, il faut absolument mettre les moyens sur l'éducation, les moyens de fonctionner, les moyens de formation aussi. Il faut vraiment mettre du poids dans la formation des enseignants. Très important.
Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sourd sa tête.
Moi, je ne crois pas aux doués. Et pas doué, hein. C'est une question d'éducation, d'éveil, d'accompagnement. Il n'y a pas un gène de l'enfant intelligent, je pense pas. Mais en gros, un enfant, si tu l'arroses, ça va bien. Si tu l'ouvres à la culture, tu fais écouter de la musique, si tu le décroches de la télé, de son téléphone, tu l'emmènes en montagne, tu lui fais faire du sport, si tu le chapeautes pas trop, tu lui donnes de l'autonomie. Si tu t'en occupes, c'est tant pour lui sans l'étouffer, tu récoltes les fruits derrière. Hein. Faut s'il est bien dans sa peau, quoi. Mais il y a une chose que les enfants, je veux dire, presque réclament, c'est les repères. Et les repères, pour eux, c'est la famille. Donc pour eux, il y a un père, une mère, ce que tu veux. Il y a une maison, etc. Et ils sont rassurés quand il y a des repères qui sont là. La grande hantise des enfants, c'est la séparation des parents. C'est leur grande hantise. Parce que c'est la déliquescence de la famille. Disparition des repères, etc. Bon, après, quand ça se passe. Mais ça fait du dégât. À chaque fois, ça fait du dégât. Quand on dit les parents se séparent, je comprends mieux. Ouais, le gamin, il est plus là, quoi. Il le sent, lui aussi. Il n'a pas forcément l'info, mais voilà. Il faut des repères, et puis il faut qu'il soit... Il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'il y ait une présence effective des parents, une présence affective, éducative, etc. C'est hyper important. Tout se joue de la maternelle, voire avant. T'es enceinte, tu vis posément, t'es pas stressée. T'écoutes régulièrement de la musique, etc. Mais lui, il entend, hein, le gamin. Il baigne dans cette musique, il baigne dans le langage, la tonalité, il l'entend. Et quand il naît, il est paisible, ou alors il est stressé parce que sa mère, elle court tout le temps, elle fume, elle picole, elle crie, elle regarde la télé tout le temps, etc. Quoi. Ça joue vachement. Je pense que c'est hyper important. Nous, à l'école, on récupère les gamins à 3 ans. Il y a des gamins qui arrivent qui ne savent pas parler quasiment. Et d'autres qui font des phrases construites avec des relatives, etc. quoi. Voire des pronoms relatifs indirects. Et d'autres, tu ne comprends pas. Ils ne parlent pas mots-clés. Moi, veux cola. Moi, veux du chocolat. Bon. Voilà. On a déjà ces écarts-là. des gamins qui bouffent mal, des gamins qui bouffent bien, des gamins qui bougent, d'autres qui bougent pas, des gamins qui passent leur temps devant la télé, d'autres non. Le cadre de référence, le cadre de vie, l'accompagnement, c'est ça qui fait la différence. D'ailleurs, enfin, sans vouloir... le nombre d'enfants d'enseignants qui ont bien senti que ça se passait comme ça et qui finissent... voilà.
Papillon volé, c'est volé qui l'a volé. Papillon volé, c'est volé qui l'a volé. En pyjama, l'été en pyjama. En pyjama, l'été en pyjama. En pyjama, l'été en pyjama.
Le CARA a été aménagé à partir des années 60 et on est passé d'une agriculture vivrière à une économie basée sur le tourisme à quasiment 90%. Le problème, c'est qu'on a mis le paquet sur le tourisme et on a oublié la population locale. Ça ne s'est pas forcément trop vu au départ et on s'aperçoit aujourd'hui que les jeunes, de deux générations après finalement, bah, ils ont du mal à se loger, à trouver de l'habitat permanent. Et on a un gros problème au niveau des effectifs scolaires. En gros, on a perdu 40% d'effectifs en 15 ans, quoi. On ferme classe au fur et à mesure. Siac est très, très menacé. Saint-Véran, ils vont certainement passer à la casserole, au moins pour une classe cette année. Ou on va peut-être nous fermer une classe encore, quoi.
Quand nous trois, plus Kim et Tassia, on sera dans les classes 5e, 4e, cette école, je pense qu'elle aura fermé, hein. Il n'y aura presque plus personne.
C'est dommage parce que ça fait quand même... Mon père, il allait à cette école-là, oui. Dans la classe du dessous. Même mon grand-père, il allait dans la même école et dans la classe du dessous.
Dire donc. Qu'avant, ils étaient 80.
Ils étaient beaucoup avant, oui, et puis maintenant, il y a de plus en plus de gens dans le CARA, mais il y a de moins en moins d'enfants, donc...
C'était Galerie Ambulante, une émission de Pierrick Mouton et Stéphane Guiglomé.
Avec la participation des élèves de l'école publique d'Abriès-Ristola, l'école Félix Tonda d'Aiguille, l'école primaire de Molines-en-Caira et l'école maternelle et primaire de Saint-Véran. Remerciements aux professeurs des écoles Claire Bouyala, Muriel Carr, Nathalie Bournas, Nadia Wallan, Charlotte Morard, Diane Gégère, Michel Chavot, Marion Colonna, Joël Brunet, Marie-Hélène Farouz et Julie Cassin. Réalisation
Pierrick Mouton.
Une production association Art Accessible, La Galerie Ambulante. Une coproduction du radio Switch and Paper Magazine.